Alors, l'autopsie prouve qu'il y a bien eu un viol. Lui assure qu'elle était d'accord pour venir chez lui, mais dans le même temps, il reconnaît aussi l'avoir frappé pendant l'acte. Ça dit aussi quelque chose de cette contrainte et ça remet en cause, évidemment, ce qu'il semble dire depuis le début, qu'elle était d'accord pour venir chez lui et que le rapport était consenti, évidemment.
L'agriculteur de 21 ans ressort moins d'une heure après être arrivé à son domicile à 5h32 et dépose le corps dans un bois près de sa maison, là où Justine sera retrouvée sans vie. Immédiatement, le tueur présumé rentre chez lui et nettoie la scène de crime avant de retourner enterrer la jeune femme à l'aide d'un engin agricole. Il est 6 heures passées, 1h30 s'est écoulée entre le moment où Lucas ramène Justine chez lui et celui où il l'enterre.
Ça dit qu'il y a une rapidité d'exécution, mais ça, c'est dur d'en déterminer quelque chose parce que ça dit ni que c'est un monstre sanguinaire, ni qu'il a pété un plomb, parce que en fait, il faut, c'est aux experts psychiatres de déterminer ça. Un meurtre avec préméditation, c'est un assassinat et il prendrait la prison à perpétuité. Pour l'instant, ça ne la démontre pas.
Peu après 6 heures, il va chercher une amie à une soirée. Il la ramène chez lui, passe la nuit avec elle, nuit au cours de laquelle ils auront une relation. Au même endroit donc, où l'homme a donné la mort à Justine quelques instants auparavant.
Guillaume Fard, la première chose qui frappe dans ce déroulé, c'est effectivement ce laps de temps très court qui interpelle. 1h30 entre le viol, il est accusé de viol ce jeune homme, et la dissimulation du corps.
Oui, 1h30 desquelles il faut retrancher les 30 minutes de trajet entre la boîte de nuit et son domicile. Donc en fait, une heure. Une heure pendant laquelle, effectivement, il y a viol, donc ça, l'autopsie en atteste, homicide, dissimulation du corps avec un engin agricole, nettoyage de ce qui est une scène de crime, et ensuite il repart. Et il repart à un autre endroit, qui n'est pas la boîte de nuit d'où il venait, retrouver une autre jeune femme qu'il ramène chez lui, avec laquelle il aura minima une relation sexuelle dans les lieux mêmes où Justine a été violée et tuée.
Est-ce qu'on a ce soir des éléments qui amènent à poser la question de la préméditation ?
On n'a pas le résultat de l'analyse toxicologique. Et ensuite, se pose aussi la question du mobile et la question de la manière dont l'homicide a été conduit. Parce que vous savez, en criminologie, pour dire qu'une enquête est terminée, il faut trois choses. Il faut un corps, il faut un mobile, il faut des aveux. Le corps, il a été retrouvé. Il a été retrouvé à proximité immédiate de son domicile, à Lucas. Donc, ça en fait effectivement la personne qui a été suspectée. Le mobile, il se dessine. C'est le mobile sexuel. Mais lui ne reconnaît pas le viol. Lui dit qu'il y a eu une relation qui est consentie. C'est la dernière version qu'il donne. C'est celle qu'il inscrit au PV en sortant de sa garde à vue. Et enfin, les aveux, il n'en fait pas. Il n'en fait pas. Lui, ce qu'il dit, c'est que le rapport sexuel, il en atteste sur le plan de la matérialité, mais il dit qu'il était consenti. Il reconnaît un coup de poing qui a été porté au visage de Justine pendant l'acte sexuel, dit-il, mais il ne va pas plus loin. Alors que c'est en contradiction avec les résultats d'expertise médico-légale, puisque les experts ont établi que c'était un objet contondant qui avait surtout été utilisé pour frapper Justine. Donc, il y a quand même quelques contradictions. Il n'y a pas d'aveu. Et un mobile qui, certes, se dessine, mais qui n'est pas tout à fait précis à cette heure.
Cécile, Denré.
La question qui peut se poser, c'est la question de est-ce qu'il a cherché à se construire un alibi ? Parce que ce qui interpelle, vous l'avez dit, c'est cette séquence extrêmement rapide. En 1h30, finalement, il viole Justine, il la tue, et puis il va dissimuler son corps, prendre soin auparavant aussi de nettoyer la scène de crime. Et derrière, il enchaîne directement sur une rencontre avec une jeune femme qui, effectivement, est celle qui l'appelle, donc c'est pas lui qui appelle la jeune femme, c'est lui qui en tout cas va la chercher et la ramener derrière chez lui. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il a fait ça pour qu'on puisse au petit matin avoir quelqu'un qui dise, à savoir cette deuxième jeune fille, j'ai passé la nuit avec lui. Donc effectivement, a-t-il cherché à se trouver un alibi derrière tout ça, en prenant soin, encore une fois, au passage, de nettoyer la scène de crime, d'enterrer le corps, donc de dissimuler ses faits et gestes, avec un sang-froid qui interpelle, puisque tout ça se passe dans un laps de temps extrêmement réduit.
Tout ça se fait effectivement rapidement, mais d'une certaine manière, c'est ça aussi qui va le perdre, d'une certaine manière, parce qu'il laisse derrière lui, dans la précipitation, un certain nombre d'éléments que vont découvrir assez vite les enquêteurs.
Oui, il y a une énorme part d'amateurisme. C'est pour ça que La préméditation, bon, d'abord, il faut attendre le résultat de l'analyse toxicologique, parce que si Justine a effectivement été droguée, ça peut orienter. Et encore, ça ne prouverait pas, totalement.
On rappelle une chose, c'est qu'en boîte de nuit, le verre qu'elle boit, elle explique à ses copains autour que ce verre a un goût bizarre.
Oui, effectivement.
Et qu'elle ne se sent pas bien.
Et voilà. Et donc, ça pourrait plaider pour le fait qu'elle aurait été droguée. Et donc, ça pourrait orienter la thèse vers un acte prémédité. Mais ça ne prouverait d'ailleurs pas tout à fait la préméditation. Puis, préméditation de quoi? Du viol, du meurtre, des deux.
Et donc, il faudrait prouver que c'est lui qui a versé une substance dans le verre. Voilà. Ça reste aussi encore à démontrer.
Et après, vous posez la question de l'amateurisme. Du sang est retrouvé dans la voiture, notamment sur le levier de vitesse, qui est imparfaitement nettoyé. Il se retrouve avec deux téléphones portables. Alors, il rejoint cette jeune femme après possiblement le viol et le meurtre de Justine. Mais c'est elle qui dira aux enquêteurs qu'il reçoit un coup de fil dans la voiture, qu'il a une attitude qui est plus que suspecte, qu'il prétendra qu'il s'agit de son téléphone portable professionnel alors qu'il est ouvrier agricole dans la propriété de ses parents et qu'il n'a pas l'usage ni la nécessité d'un deuxième téléphone. Puis il y a aussi le fait que le sac à main de Justine, il le brûle. Mais imparfaitement, incomplètement, et il va le laisser à proximité immédiate de la maison. Donc, en réalité, tout ça n'est pas extrêmement bien préparé. Peut-être ce qui était le plus préparé, mais est-ce qu'il y avait pensé avant ou est-ce qu'il le fait sur le moment, c'est la dissimulation du corps enfoui avec un engin agricole. Ça, oui, s'il n'avait pas révélé l'emplacement exact, les enquêteurs auraient mis probablement beaucoup de temps. Il y a quand même eu plus de 80 gendarmes qui avaient été mobilisés, des chiens Saint-Hubert qui ont un très bon odorat. Malgré ça, les recherches, quand même, elles avaient quand même mis un certain temps et elles n'avaient pas abouti à trouver le corps spontanément sans que lui indique où est-ce qu'il l'avait dissimulé.
Cécile, la suite.
Pour l'instant, évidemment, il est incarcéré, ce depuis sa mise en examen, hein, à l'issue de son interpellation. Il est en détention provisoire et, à notre connaissance, il n'a pas encore été confronté à ces nouveaux éléments qui entrent dans la procédure et notamment les résultats de l'autopsie qu'on révèle aujourd'hui, à savoir qu'il y a bien eu viol, ce qui n'est pas exactement ce qu'il avait déclaré lui, à savoir qu'il s'agissait d'une relation consentie. Donc, la prochaine étape, c'est qu'il soit de nouveau convoqué face au juge d'instruction pour être confronté à la fois à ces éléments de preuve, ces nouveaux éléments qui rentrent en procédure, et puis aux témoignages qui peuvent aussi s'accumuler dans cette enquête qui se poursuit, et puis même des confrontations éventuellement face à face avec les témoins de cette soirée. Et je pense à Théo, qu'on a évoqué beaucoup dans cette affaire.
C'était l'ami de Justine.
L'ami de Justine, évidemment, qui, ce soir-là, s'est tout de suite inquiété pour son ami qui disparaissait, a essayé de poser des questions à Lucas toute la soirée, en lui demandant mais tu n'es plus avec elle, etc. Et lui, il lui répondait mais non, qu'il était avec une autre femme. Et bien, il faudra qu'il soit peut-être confronté à cette autre protagoniste de cette nuit, cette dernière nuit de Justine, pour faire émerger la vérité au fil de l'instruction.
Et puis, tout dernier élément, Guillaume, évidemment, l'examen psychiatrique.
Oui, alors ça c'est nécessaire toujours dans ce type d'affaires. Et comprendre si lui aussi avait consommé ou pas des substances. Alors maintenant, bon, il est un peu tard pour prélever quoi que ce soit, mais ça peut aussi expliquer et éclairer tout un contexte. Maintenant, aller dire que des expertises psychiatriques concluraient à une abolition du discernement et donc une irresponsabilité, c'est aller très loin dans les extrapolations. Pour l'heure, on a un homme qui reste présumé innocent mais qui est le principal suspect, et avec un cheminement qui va être très long pour aboutir à une vérité judiciaire. C'est quelle va être sa part de chemin à lui pour admettre ce viol dont il est accusé et éclairer les conditions du crime. Cette vérité judiciaire, elle est due aussi aux familles, et notamment à la famille de Justine.
Évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à Cécile Doré d'avoir été avec nous ce soir.